énergie.
Tribu, Julien Magnolet.
Bonjour et bienvenue dans Tribu. Avoir une retraite active, c'est une recommandation que prônent de nombreux organismes, de l'OMS en passant par le Conseil fédéral. Les seniors sont poussés à rester actifs et à s'engager bénévolement pour bien vieillir. Mais comment les personnes retraitées vivent-elles cette recommandation, pour ne pas dire injonction, à une retraite active? Quels bénéfices en retirent-elles? Une équipe de recherche de la Haute École de Gestion ARC à Neuchâtel s'est penchée sur cette question et en a tiré une étude. Et j'ai le plaisir de recevoir deux de ses auteurs. Bonjour Pierre-Yves Moret et Jérôme Heim.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Pierre-Yves Moret, vous êtes professeur assistant et Jérôme Heim, adjoint scientifique. Le titre de l'étude que vous publiez avec Patrick Hichère et Michael Perret est « Engagement et rôle social des seniors entre reconnaissance et méconnaissance ». Merci beaucoup messieurs d'être avec nous ce matin. Tribu Pierre-Yves Moret, je commence avec vous parce que votre voix, les auditrices et auditeurs vont se rendre compte, n'est pas inconnue hein, à la RTS. Vous avez travaillé ici, vous avez même tenu le micro de Tribu à plusieurs reprises. Maintenant, vous enseignez, vous faites de la recherche. Qu'est-ce que ça fait d'être passé de l'autre côté du miroir?
Ça fait du bien, écoutez.
Comment ça
fait...
dit bien?
Non, c'est très intéressant. Au fond, c'est pas si étranger le travail journalistique et le travail de recherche. C'est des interrogations, des problématisations. Donc il y a une continuité. Les chercheurs ont besoin des journalistes. On vous remercie beaucoup de nous recevoir aujourd'hui pour parler de cette recherche. Et puis les journalistes ont besoin de la recherche aussi. Donc c'est un partenariat. Mais en tout cas, on est très content d'être là aujourd'hui.
Jérôme Heim, on va parler de cette retraite active. Il y a, j'utilisais le terme d'injonction. Est-ce qu'il y a dans nos sociétés une injonction à mener une retraite active?
Alors c'est vrai que quand on parle d'injonction, ça peut paraître un peu fort. J'aime bien le terme de recommandation ou de pression sociale peut-être à l'idée de rester actif. C'est vrai que dans nos sociétés, le fait de contribuer à l'économie, à la société de façon générale, sous forme aussi de bénévolat, bah, c'est des normes, on va dire, pour qui nous habitent et qu'on retrouve de façon assez générale. Mais on voit que ça perdure au moment de la retraite, à ce moment où quelque part, on devrait pouvoir se retirer de cette vie active.
Est-ce que, j'ai parlé du Conseil fédéral, de l'OMS, il y a d'autres, ça vient d'autres endroits aussi, cette pression-là?
Oui, en fait, on le voit, bien sûr, il y a un discours politique hein, de la part du Conseil fédéral, de la part aussi de certains organes, on peut penser à Avenir Suisse ou des organismes même peut-être qui sont en faveur de la défense des personnes âgées, où on voit que l'idée de rester actif est profitable d'une part pour la société dans son ensemble, mais aussi pour les personnes elles-mêmes, parce que on considère que de rester actif, bah, c'est bon pour la mémoire, pour la santé physique, pour les liens sociaux aussi.
Oui, Pierre-Yves.
On peut peut-être préciser justement pour compléter que cette question d'injonction, en fait, ce que Jérôme décrit, c'est vraiment l'idée qu'il y a un discours, il y a une pensée d'État qui se manifeste dans des prises de parole du Conseil fédéral, de différents organismes, dont justement par les milieux économiques, Avenir Suisse, hein, c'est vraiment, entre guillemets, la voix de l'économie. Et tous ces milieux-là prônent l'intérêt pour l'individu et pour la société d'une participation active de la part des seniors. Et parfois, ces recommandations peuvent être formulées comme des injonctions ou être vécues comme des injonctions, ce qui est aussi complémentaire. Et puis, dans l'entourage direct des personnes concernées, les seniors, que nous sommes toutes et tous un jour, espérons-le en tout cas, eh bien, ça peut être aussi largement soutenu, ce discours présent, à plus ou moins grande échelle, et parfois vécu comme étant des injonctions.
C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'exemples, hein, de citations dans votre étude, et il y a une fois une femme, je crois, qui dit « Bon, quand même, je résume, hein, c'est pas tout à fait ça qu'elle dit, mais elle dit, mais des fois je me demande si la société se repose pas un peu là-dessus, ou plutôt l'État, d'une certaine manière, dit, ah, allez les vieux, c'est son terme, les vieux continuent à bosser, puis en gros, on fait ce que l'État ne fait peut-être pas.
Oui, alors c'est ça, ça peut être vécu comme ça parfois, ça dépend aussi là comment les personnes le vivent dans leur ressenti. Nous, ce qui nous a intéressé dans notre étude, justement, c'est de comprendre comment ce discours se manifeste, mais comment il est vécu, perçu par les seniors par rapport aux raisons, aux dynamiques qui poussent une personne à s'engager, à participer de façon bénévole pour une activité à destination d'autres personnes ou dans le cadre d'une activité plus ou moins organisée. Et puis effectivement, il peut y avoir ces incitations, ces invitations, ces recommandations où on a l'impression qu'au fond, on tient un rôle qui n'est pas toujours forcément non plus légitimement reconnu. Ça peut être une des limites qui peut être aperçue par rapport à ce qu'on fait et puis la manière dont c'est reconnu. Alors, sur le plan financier, puisqu'on sait que tous les proches aidants représentent une part importante du travail, notamment, on a beaucoup parlé de la grand-parentalité avec les petits-enfants, c'est un sujet connu. Et parfois, économiquement, ça représente quand même une certaine somme. Mais au fond, il y a parfois un peu ce sentiment qui peut exister chez les personnes concernées, les seniors, de se dire, mais au fond, est-ce qu'on... on se repose pas sur nous et que, au fond, la structure sociétale pourrait aussi peut-être gérer les choses différemment ou alors reconnaître différemment la place que les seniors ont dans ce qu'on apporte. Mais je sais pas si Jérôme, tu voulais...
Par rapport à ça, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'on voit que les personnes ont envie justement de continuer de participer au monde social. Mais ce qui nous a animé en fait dans cette recherche, c'était de voir justement les différentes configurations ou conditions de possibilité de participer concrètement. Et puis, on a donc fait une recherche sur 4 terrains, on peut le dire maintenant, avec vraiment des situations assez différentes, des contextes bien différents. D'une part, des personnes qui sont participantes à des groupes de, enfin des rencontres, on va dire, en lien avec une maladie, et donc elles sont plutôt là sur conseil médical, hein, donc pour des questions de, pour améliorer leur vécu, mais aussi pour avoir des relations sociales. Il y a d'autres personnes qui sont moniteurs, monitrices de randonnée, et donc là, il y a vraiment une activité où elles s'engagent à organiser des activités pour d'autres seniors. Le troisième terrain, ce sont des personnes qui sont actives dans des associations culturelles. Et là, on voit que c'est plutôt des personnes qui ont été sollicitées, en fait, en lien avec leur ancien statut, c'est-à-dire des notaires, anciens politiciens, professeurs d'université. Et enfin, le quatrième contexte, qui est celui des proches aidants. Et on voit vraiment que dans ces quatre contextes différents, la participation est bien différente. Elle est parfois un peu subie, alors que dans certains cas, c'est plutôt honorifique. Dans d'autres cas, je pense notamment à ces activités culturelles. Pour d'autres, notamment en particulier pour les proches aidants, c'est plutôt une participation qui est contrainte, qu'on ne choisit pas ou qu'on se sent obligé justement de façon morale de soutenir un proche, un parent.
Oui, ça peut être un mari, une épouse, hein, et c'est vrai que ça, voilà, il y a des témoignages assez forts de gens qui disent, je devais être là, je devais m'en occuper. Dans le fond, c'est vrai qu'on travaille souvent toute notre vie et on dit une retraite active, c'est bien. Est-ce que ces gens-là, Pierre-Yves Moret, ils le font, cette retraite active, ils le font pour eux, parce qu'ils se disent j'ai besoin de ça, ou est-ce qu'ils disent en fait je dois rendre quelque chose à la société, donc je le fais pour la société?
Alors je répondrai en deux temps. Premièrement, peut-être pour donner une réponse courte, c'est que ça dépend évidemment de chaque individu et du parcours de vie aussi de la personne, de son parcours socio-professionnel, de son histoire personnelle, presque aussi sentimentale, émotionnelle, on pourrait dire, à la manière dont on considère son vécu avec un certain recul, et puis des conditions socio-économiques dans laquelle la personne se trouve, parce qu'on peut avoir une belle carrière mais être fatigué, enfin toutes les raisons sont légitimes ou audibles pour vouloir s'engager ou ne pas le vouloir. Évidemment, il n'y a pas de jugement moral de notre point de vue, du point de vue de la recherche sur les dynamiques de participation. Après, on a utilisé dans notre recherche un modèle théorique, il faut qu'on le précise, qui vient d'une philosophe qui s'appelle Joëlle Zask, qui s'intéresse, alors elle s'intéressait aux formes démocratiques de la participation, mais son modèle est très intéressant, il séquence trois dimensions. D'abord, prendre part, c'est le fait d'en être, mais activement, pour le dire comme ça. La deuxième dimension, c'est le fait d'apporter une part, de contribuer. Et la troisième dimension, c'est le fait de recevoir une part, de bénéficier d'une part. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a certains contextes ou certaines situations de vie dans lesquelles on va prendre part parce qu'on a la possibilité de le faire et puis qu'on a envie d'apporter quelque chose. C'est ce qu'on a pu notamment observer dans le contexte des personnes qui accompagnent des sorties sportives, des marches dans la nature avec une organisation pour personnes âgées et qui sont donc des monitrices de randonnée ou moniteurs de randonnée bénévoles. Dans d'autres contextes, comme justement la proche aidance, bien, c'est un peu plus compliqué. Parfois, c'est pas parce qu'on a envie simplement d'apporter, mais c'est parce qu'il le faut bien. Et puis, au fond, il faut bien prendre part d'une certaine manière. Et puis, chez Joëlle Zask, ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre, et puis on l'observe dans ce qu'on a pu recevoir et entendre des personnes qui ont bien voulu répondre à nos entretiens, à nos questions. Eh bien, c'est une articulation équilibrée. C'est dans une articulation équilibrée de ces trois dimensions que les choses se jouent. Ça veut pas dire que quand les trois dimensions sont équitablement présentes, tout va bien. Mais c'est qu'au fond, quand la personne trouve une forme d'articulation équilibrée dans le fait de prendre part, d'apporter une part, de pouvoir contribuer, donner quelque chose de soi et de recevoir quelque chose, qu'il y a une estime de soi qui se développe et puis qu'au fond, il y a une forme de satisfaction et de bien-être par la participation qui peut être vécue et qui peut être dit aussi.
Ce que je peux ajouter par rapport à ça, c'est que justement, ce modèle de la participation nous fait rompre avec cette dichotomie, faire les choses pour soi ou pour les autres. On se rend compte en fait que c'est précisément quand on fait quelque chose pour les autres et que cette contribution, elle est reconnue par les autres, que on peut avoir du plaisir pour soi. Mmh. Et en tout cas, c'est ressorti à plusieurs moments dans les entretiens, c'est que ces personnes, de façon générale, dans le bénévolat, elles ont du plaisir parce que précisément leur contribution a été utile, a eu du sens et a été reconnue par les autres.
Quand vous dites elle est reconnue par les autres, de quel autre parlez-vous ? Est-ce que c'est les autres bénévoles, ou est-ce que dans le fond les autres, c'est de manière plus large la société, parce que la société peut aussi dire ah ben c'est bien, tu fais ça, tu fais des bénévolats, tu fais quelque chose de ta vie qui a un sens. De quel autre parlez-vous ?
Alors là, je pensais clairement aux personnes à qui c'est destiné. Si on prend le groupe de discussion par rapport à cette situation sanitaire, c'est le fait de contribuer au groupe de parole, de discuter avec eux, d'échanger, d'être une écoute. Et donc là, c'est vu comme un apport qui est bénéfique pour ces autres personnes qu'on côtoie. C'est vrai que quand on pense aux personnes qui sont actives dans des institutions culturelles, on est plutôt dans une légitimation plus générale, où on voit qu'on contribue au, par exemple, au développement culturel d'un territoire. Ça a été plusieurs fois évoqué, comme quoi cette contribution, elle est importante au moment où on voit que l'institution culturelle pour laquelle on est actif, elle va continuer de se développer plutôt que de disparaître.
Pierre Imoret, Jérôme Haim, nous parlons de retraite active avec vous, qui êtes des jeunes actifs. Hein. On se retrouve dans un court instant.
Your breath is sweet, your eyes are like two jewels in the night. Your back is straight, your hair is smooth on the pillow where you lie. But I don't sense affection, no gratitude or love. Your loyalty is not for me, but to the stars above. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. Your daddy, he's an outlaw, a wanderer by trade. He'll teach you how to pick and choose or how to throw a blade. He oversees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice, it trembles as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. Sister sees the future like your mama and yourself. You've never learned to read or write. There's no books upon your shelf. Your pleasure knows no limits. Your voice is like a meadowlark. But your soul is like the ocean, mysterious and dark. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. To the valley below.
One More Cup of Coffee, c'était la voix de Tom Jones, mais le titre est de Bob Dylan, il date de 1976. On vous retrouve, Pierre-Yves Moret et Jérôme Haim, nous parlons de retraite active. Voilà, s'engager, faire des choses lorsqu'on est à la retraite. Il y a quand même ce paradoxe, Jérôme Haim, on travaille longtemps, on a fait une émission d'ailleurs sur la place du travail dans nos vies, on travaille longtemps, la retraite, on se retire du monde du travail, mais il y a cette demande, peut-être injonction, peut-être recommandation à continuer à faire des choses, certes pas le même travail, mais comment est-ce que les gens vivent ça? Parce qu'il y a pas mal des gens qui disent, mais stop, au fait, j'ai bossé toute ma vie, je suis peut-être un peu cabossé, j'ai envie d'arrêter.
Ben c'est justement en fait ces différents parcours qui peuvent permettre de répondre à cette question, parce que ben, quand on pense à la catégorie des seniors, en fait c'est une catégorie de la population qui est pas du tout homogène. Il y a des personnes qui ont eu un parcours professionnel tout à fait satisfaisant et qui se voient même redevables de continuer de travailler ou d'être actifs, parfois justement au service des autres. Et puis c'est vrai que quand on pense à ces activités culturelles ou au fait d'être moniteur de randonnée, on voit des personnes qui ont justement envie de continuer à être actifs pour les autres. Mmh. C'est un peu différent quand il s'agit des proches aidants ou voire de certaines personnes qui ont eu un parcours parfois chaotique, difficile. En tout cas, c'était le cas des personnes qu'on a pu rencontrer qui ont justement des problèmes de santé, qui auraient bien voulu pouvoir un peu se retirer en quelque sorte, et qui parfois ont un peu des réticences à se dire je vais continuer d'être actif, et qui préféraient par contre profiter d'une retraite bien méritée.
Pierre-Yves Moret, c'est intéressant, on avait fait une autre émission sur le sens de la vie, il y a toute une étude qui a été faite du côté de Genève sur le sens de la vie, qu'est-ce qui fait sens dans le fond pour les gens, et une des conclusions, ça montrait que les gens, s'ils peuvent faire quelque chose pour les autres, ils ont l'impression que ça a du sens. On retrouve ça dans le monde professionnel aussi, et c'est comme si arrivé à la retraite, dans le fond, peut-être on a fait un travail X ou Y, on se dit maintenant je veux aller vraiment au cœur du sens de ma vie, c'est-à-dire aider les autres. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez trouvé?
Alors, on a entendu ça dans les propos qu'on a entendus de la part de nos informatrices et informateurs. Quand on fait quelque chose pour les autres, on peut y trouver du sens. Mais c'est quand faire quelque chose pour les autres donne du sens qu'au fond, les choses sont équitables et que cela fonctionne. Parce qu'il y a effectivement un peu cette idée qu'il faudrait pouvoir faire quelque chose pour les autres. Et là, le sens serait présent ou serait donné. D'ailleurs, Julien, je vous ai vu faire les guillemets dans l'introduction de l'émission quand vous parliez du bien-être à la retraite, avec les doigts, vous faisiez les guillemets. Puis au fond, cette idée, effectivement, qu'il y a être un senior, il y a avoir du bien-être, etc. Puis il y a des catégories un peu très généralisantes, comme le disait Jérôme pour les seniors, qui font peut-être oublier toute l'importance de la considération des parcours de vie. Et c'est pour ça que la recherche qu'on a menée, elle n'est pas du tout quantitative, c'est une recherche exploratoire qualitative. Donc on a essayé d'entendre ce qui se joue dans des parcours individuels et comment les personnes vivent cela. Et puis, s'engager pour les autres, il y a des personnes pour lesquelles ça fait sens, mais d'autres pour lesquelles ça ne fait pas sens. Y compris d'ailleurs chez des personnes avec qui on a fait des entretiens, qui s'engagent pour les autres, mais au fond, elles ne le font pas parce que sinon leur vie n'aurait pas de sens. C'est pas ça le propos. Donc je donnerai une réponse qui ne répond pas vraiment à votre question, mais pour dire que c'est à considérer à chaque fois dans une situation individuelle pour les personnes concernées. Mais l'idée qu'il faudrait s'engager pour autrui pour qu'on ait une forme de bien-être et de sens à sa vie, il faut le prendre avec un tout petit peu de mesure, au fond.
Jérôme Haim, est-ce qu'il y a un lien entre l'activité professionnelle ou la suractivité professionnelle des gens qui bossaient beaucoup, etc., et une retraite active ou très active? Est-ce qu'on retrouve le même lien ou au contraire une cassure? On veut s'arrêter, par exemple.
Non, je pense qu'il y a clairement un lien. En tout cas, plusieurs personnes nous ont dit qu'elles ont eu une vie très active, vraiment à bosser beaucoup, avoir aussi du temps de déplacement, et puis qu'elles ne se voyaient pas du tout, du jour au lendemain, passer du temps devant la télévision ou à lire des livres. Et donc, elles ont prévu, elles ont anticipé leur passage à la retraite en s'inscrivant justement dans des associations pour justement devenir moniteur de randonnée, comme c'est le cas ici. Il y a aussi d'autres personnes qui ont été justement à certains statuts, je parlais de ça avant, au niveau politique ou au niveau professoral, et pour qui en fait le passage à la retraite constituerait une forme de perte de rôle, ou en tout cas de perte de statut, et qui peut être plus ou moins mal vécue.
C'est important ce statut, parce qu'on a dit, il y a faire quelque chose pour autrui, qui peut être valorisant, mais le statut, c'est quelque chose. Hein. On s'est construit sur son statut, on a envie d'en maintenir un, en tout cas.
Oui, alors il y a certaines personnes, comme le disait Jérôme, pour lesquelles on a pu comprendre que ça pouvait jouer un rôle et que c'était important. D'autres personnes pour lesquelles ça n'a pas forcément d'importance. Mais c'est là que c'est intéressant de voir que cette articulation entre prendre un rôle pour quelqu'un par rapport au rôle qu'on a pu avoir, il y a des choses qui se jouent dans le passage même à la retraite, ou le fait tout d'un coup de se retrouver en retraite, le mot est aussi tellement chargé symboliquement, il y a eu plusieurs sujets là-dessus, mais que ça peut jouer, que ça peut être important. Mais la question là derrière aussi, c'est de ne pas complètement s'oublier, ça s'est vu chez plusieurs des personnes qu'on a vues. Garder un rôle, tenir un rôle, s'engager pour les autres, d'accord, mais ne pas s'oublier. On a eu une proche aidante, par exemple, qui a une situation de proche aidante un peu contrainte, elle est obligée de participer, d'aider, elle est très sollicitée, puis elle aurait encore des tas de possibilités de faire quelque chose, puis elle dit, bah voilà, pour moi c'est trop, je pourrais aider les réfugiés, mais les réfugiés, je les ai déjà chez moi, c'est les relations familiales avec lesquelles elle est en situation de proche aidance. Puis elle disait que d'un autre côté, ne rien faire avec ou pour les autres, en participant avec les autres, ce serait pas possible. Elle a une très jolie formule, enfin forte. Elle dit n'être que pour soi, c'est impossible. Mmh. Ça, c'est quelque chose d'assez parlant, je trouve.
C'est quand même un petit peu le point noir, entre guillemets, Jérôme Haim, de ces entretiens que vous avez menés, dans le sens que les proches aidants, on voit qu'il y a une certaine souffrance. Parfois un manque de reconnaissance, parfois un manque de possibilité de mener une retraite comme on le voudrait. Alors on sait, il y a des journées pour de reconnaissance, etc. Mais voilà, c'est difficile d'être proche aidant.
Mais justement, à la différence des autres personnes qu'on peut voir qu'elles peuvent se retirer, hein, justement, enfin, Pierre-Yves évoquait cette notion de prendre part, il y a aussi la liberté de ne plus prendre part. Mmh. Dans le cas des proches aidants, ce n'est pas le cas. On n'a pas forcément le choix d'être proche aidant, ça nous tombe dessus, c'est son mari malade, son parent qu'on peut pas abandonner complètement. Il est évident que cet engagement se termine que par éventuellement la guérison de la personne, voire plus souvent par la mort. Mmh. Et donc ça implique qu'on s'engage constamment, que ça soit des préoccupations aussi quotidiennes, et pas forcément juste une activité qui peut être aussi prenante, hein, mais qui est un peu comparable à une activité professionnelle qu'on met à côté de sa vie. La proche aidance, c'est vraiment quelque chose de tout instant et qui est assez particulier.
Pierre-Yves Moret, est-ce que la question se pose chez les personnes que vous avez interrogées de la fin de cette retraite active, où on se retire du monde professionnel lorsqu'on a la retraite, mais est-ce qu'on se pose la question de quand est-ce qu'on arrête d'être très actif ou actif durant la retraite?
On s'intéressait à ça dans notre protocole de recherche, dans nos questions, de qu'est-ce qui fait qu'on participe, avec quel lien avec la notion de reconnaissance, et puis qu'est-ce qui fait qu'on ne pourrait plus participer alors qu'on a participé, et puis est-ce que le fait qu'on ne reçoit plus, ressent plus de reconnaissance joue un rôle? Puis au fond, on pourrait dire assez rapidement que tant qu'une estime de soi existe dans cet équilibre entre ces trois dimensions, prendre une part, apporter une part et bénéficier d'une part ou retirer un bénéfice, tant qu'une estime de soi s'en retire, on veut bien encore participer. Mais sinon, c'est ça pourrait devenir un peu délicat, c'est quand le déséquilibre est trop fort. Si on a le choix, si on n'est pas pris dans une contrainte de proche aidance, par exemple, si on a le choix, alors on pourrait se dire, dans ce cas-là, moi j'arrête. C'est aussi, en tout cas ce que les personnes expriment.
Mais aussi la question de l'âge, dans le fond. Parce que je l'ai lu, je crois, dans votre étude, il y a une potentielle infamie sur le quatrième âge, dans le sens que on dit il faut une retraite active, allez-y, faites des choses. Lorsqu'on vieillit, des fois on peut plus, on en a peine, il faut s'occuper déjà de soi.
Ouais, d'ailleurs la catégorie des seniors qu'on utilise dans la recherche, c'est des personnes entre 65 et 85 ans en bonne situation de santé qui vivent à domicile et qui leur permettent donc de participer à des activités. C'est la catégorie d'ailleurs considérée par la Fondation Lennartz qui a financé notre étude, envers qui nous avons aussi la reconnaissance par rapport à la thématique de notre recherche. Et puis on pense à cette jeune retraite active. Hein. En Suisse, on a une grande population âgée. On a une proportion de bénévoles chez les jeunes seniors qui est très, très forte. Et puis ensuite, une fois justement que la santé ne le permet plus, etc., c'est là qu'au fond, il y a une forme d'impossibilité, peut-être aussi de vision d'exclusion sociale. Enfin, ces questions-là se posent. Et puis que le quatrième âge, c'est l'âge qu'on ne pense plus. Ou alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus de rôle pour la société? Est-ce que ça veut dire non plus que le bien-être n'est plus possible, même si certaines conditions du troisième âge actif en bonne santé ne sont plus là?
Mais en tout cas, c'est vrai que ça questionne justement sur les rôles qu'on peut avoir dans une société. Est-ce que ça se réduit au fait d'être actif pour les autres et de quel type d'activité, hein? Est-ce que c'est de garder des enfants, d'être, d'organiser des animations ou d'être comment dans une logique justement de presque productive, hein, toujours? Mm-hmm. Ou est-ce que le fait simplement de discuter, d'échanger, ça peut être aussi une forme de contribution? Je donne vraiment cet exemple autour de des personnes qui sont dans cette institution sanitaire, qui participent à des groupes de discussion, et pour qui ne se voient pas du tout comme des contributeurs. Ils se voient vraiment plutôt comme des bénéficiaires de l'activité. Or, elles contribuent, elles apportent quelque chose par leur parcours de vie, par leur l'échange qu'elles peuvent avoir avec ces autres personnes, et c'est un rôle qu'on pourrait voir peut-être dans d'autres sociétés, de la parole des vieux, qui est peut-être tout aussi importante.
Merci beaucoup Jérôme Haim et Pierre-Yves Moret. Je rappelle que vous êtes Jérôme Haim, adjoint scientifique, Pierre-Yves Moret, professeur assistant, tous deux à la Haute École de Gestion Arc Neuchâtel. Le titre de votre étude, c'est « Engagement et rôle social des seniors entre reconnaissance et méconnaissance ». Bonne suite de journée à vous deux.
Apparemment, merci.
Et un grand merci à José Moreno qui était à la technique avec nous ce matin. Demain, nous parlerons des pères et des mères face à l'allaitement. Ça, c'est pour demain. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle suite de journée.
Tribu, Julien Magnolet.
Infotrafic RTS.
Une information concernant les transports publics de la région lausannoise. Sur la ligne du Leb, la circulation des trains est interrompue entre Échallon et Bercher. Les liaisons régionales sont remplacées par des bus.